Donc, je vais vous parler de l'expérience de visite à l'époque de la culture numérique, en centrant mon propos sur des résultats qui sont donc issus d'une thèse qui a été menée là depuis 3 ans sur des usagers du musée et aussi du numérique. Cette thèse a pour terrain un musée, qui est un musée d'ethnographie régionale ou un musée de société, qui est le musée dauphinois à Grenoble. Alors, on a travaillé sur ce musée, non pas parce que c'est un musée ethnographique, par exemple, mais parce que ça nous permettait d'avoir un dispositif d'observation, à la fois des pratiques classiques des visiteurs, mais aussi des pratiques numériques. On a pu mettre en place un certain nombre d'expérimentations méthodologiques qui nous ont permis, du coup, d'aborder ces deux aspects qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous faire une introduction sur les problématiques qui m'intéressent et ensuite de les mettre en perspective avec les résultats que l'on a obtenus. Pour commencer, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit ce matin et sur la centralisation, le contexte de centralisation de l'offre en ligne dans lesquelles les musées sont situés et aussi les visiteurs. Là, je vous donne quelques exemples. Quand je parle de centralisation, je parle de ces acteurs, les GAFA, ou ces grands acteurs du numérique, en fait, qui concentrent des moyens techniques et qui concentrent aussi un nombre assez important d'usagers du numérique. Alors là, je vous montre par exemple une capture d'écran de la page Facebook de Léon Vivien, qui est une action qui a été mise en place par le mémorial de Meaux lors de la commémoration de la guerre 14-18, et on a pu suivre, avec un certain anachronisme, la vie de ce poilu à travers ses postes liés aux événements qu'il était en train de vivre. C'est un personnage de fiction inspiré d'un travail d'historien qui a été mené et qui nécessitait évidemment un partenariat entre le mémorial et Facebook. Il y a un autre exemple que vous connaissez sûrement, c'est l'offre que donne Google au musée, notamment dans la numérisation en très très haute définition de ses œuvres, qui permettent de les afficher dans le Google Art Institute, dont on a une capture ici. Là, c'est le Brooklyn Museum qui a participé à ce projet. On a encore l'exemple du Louvre et de la Nintendo DS, un partenariat entre une très grande institution publique et un très grand opérateur privé dans le domaine du jeu vidéo qui s'associent et qui produisent un outil de médiation numérique. On voit que dans ce contexte, là, ce sont des musées qui sont assez importants, qui bénéficient de tels partenariats. Les musées qui sont de taille plus moyenne se posent la question de s'investir sur ces plateformes qui sont centralisées, de quelle façon, avec quels moyens, et est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a une pertinence de se situer sur ces grands groupes? Alors évidemment, il y a beaucoup de musées qui ont au moins une page Facebook, qui diffusent de l'information avec un compte Twitter. Mais il y a toujours cette volonté d'aller plus loin et d'aller plus loin en rencontrant les missions du musée de transmission, de médiation des savoirs, de conservation aussi, qui est aussi situé dans ce contexte de l'injonction à faire du numérique absolument auquel on est de plus en plus confronté en tant que professionnel. Alors pour analyser cette situation et pour voir finalement comment dans les musées le numérique est entré et comment aujourd'hui on peut aller vers de nouvelles perspectives, je vous propose ce schéma qu'on va détailler ensemble. Il correspond en fait à des constats qui ont été faits sur des logiques et des enjeux qui sont arrivés progressivement avec le numérique au musée, qui démarre d'abord par l'informatisation des collections et puis qui va se développer vers la prise en compte du public et la façon dont on peut transmettre les contenus du musée à ce public. Alors, on a un premier constat, si je décris ce schéma. On sait que grâce à Internet et grâce aux outils numériques, on a un certain nombre de services et de contenus qui sont disponibles, qu'ils soient culturels, scientifiques, commerciaux, sociaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont culturels. Ces services, ces contenus donnent accès à des usages. On peut y avoir accès et on peut en avoir certains usages. Et les 4 mots qui suivent, beaucoup, partout, tout le temps, par tous, ce sont les enjeux qui vont progressivement accompagner la mise en ligne de ces services et de ces contenus. La première ambition, le premier objectif, c'est de se dire qu'avec ces outils, on va pouvoir mettre énormément d'informations sur Internet, qu'on va pouvoir documenter les objets à l'infini, parce que les espaces de stockage sont ont cette dimension-là. Ensuite, il y a une autre dimension qui va suivre, c'est celle de partout. On va pouvoir avoir accès à ces informations depuis n'importe quel endroit dans le monde. On n'a plus besoin, finalement, de se rendre dans un musée pour avoir accès à la collection et à la documentation qui s'y rattache. Ensuite, il y a l'autre aspect qui est le tout le temps. De la même façon qu'on n'a plus besoin de se rendre physiquement dans l'institution pour avoir accès à ces contenus, on peut, de chez soi, au milieu de la nuit, si on en a envie, hein, sans dépendre des horaires du musée, avoir accès à ces informations. Et le dernier enjeu qui nous préoccupe, je pense, aujourd'hui, et qui pose beaucoup de questions, c'est le fait d'adresser ces contenus à la diversité des publics. Et donc, de les rendre accessibles à tous et que ces usages soient pratiqués par tous. Et c'est là où on entre dans une articulation entre l'adaptation et la participation que vous voyez là, parce que effectivement, si on veut s'adresser à tous, on peut se dire qu'il faut adapter les contenus à cette diversité. Comment faire ? La solution qui est apportée et qui est portée beaucoup aujourd'hui grâce à ces outils numériques, c'est ce principe de la participation qui s'appelle Web 2.0 sous une bannière un peu promotionnelle. Qui permet, grâce à différents types d'actions qui peuvent être du paramétrage, un premier niveau dont on est acteur finalement de la façon dont on adapte ses contenus, mais ça passe aussi par des usages, des simples clics en fait, des interactions ou encore des notations, des étoiles, des commentaires, qui vont constituer des données. Ces données, et là je vais rentrer dans une partie qui est plutôt de l'ordre de la projection, qui sont déjà pratiquées dans certains secteurs, peut-être pas encore, ou qui sont en expérimentation dans le domaine culturel. À partir de ces données, qui relèvent d'une forme de participation informatique, on pourrait proposer des recommandations qui seraient effectivement adaptées à la diversité des usagers, grâce à l'analyse de ces données, donc grâce à un système de recommandations. Donc c'est dans ce système que je perçois et j'analyse cette forme de participation informatique qui du coup repose sur des enjeux que l'on attribue au numérique, certaines formes d'ambition qu'on essaierait d'atteindre, et toujours avec cette logique de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle quand on souhaite fournir ces contenus à cette diversité de public. Alors, je vais préciser le dernier point sur la question de ces données. Et là, je vous montre des logs, une image d'un journal de connexion d'un site internet. C'est-à-dire que ces données-là, elles sont totalement attachées à l'internaute qui s'est rendu sur un site internet et qui a consulté des pages, téléchargé une image, écouté un fichier audio. Ces données-là, elles sont en possession du musée. Et quand on a un nombre suffisant de ce type de données, on est capable de connaître quand même assez finement les usagers du site internet de ce musée. Donc on est quand même capable d'avoir une idée assez précise de ces publics. Ce n'est pas la seule source utile, mais ça en est une qui est importante. Vous allez voir au fur et à mesure pourquoi je vous montre cela et en quoi ça va m'intéresser. Alors, ce que je souhaite faire maintenant, c'est vous interroger cette question, les quatre points qu'on a vus ensemble. Plus de contenu, partout, tout le temps et par tous, et voir à travers les résultats de la recherche que j'ai menée, comment effectivement les visiteurs s'emparent de ces enjeux, de ces ambitions. Alors, la question de plus de contenu, quand on interroge les visiteurs... On sait que dans les musées, il y a beaucoup de dispositifs de médiation qui sont pour en savoir plus. Vous prenez une fiche, vous la lisez, vous avez plus d'informations. On pourrait se dire que les visiteurs équipés de leur téléphone portable relié à Internet peuvent interroger Google et s'ils ne savent pas une information qui est implicite dans le discours de l'exposition, ils vont pouvoir combler tout de suite ce manque. Et quand on interroge les visiteurs sur ce type de pratique qu'ils pourraient avoir, ils sont en général assez déconcertés, ils ont des réponses qui sont, que je vais vous livrer ici. D'abord, ils ne semblent pas nécessairement imaginer que des contenus supplémentaires puissent se trouver sur le site internet du musée concerné. Donc le site internet ne serait pas nécessairement un lieu de prolongation de la visite qu'ils sont en train de faire. Un autre élément qui est intéressant, c'est que quand on leur parle d'Internet comme un lieu de recherche de contenu, ils restent sur cette entité générale d'Internet, et pas nécessairement sur des sites comme Wikipédia ou comme le site Internet du musée ou d'autres types d'encyclopédies qui sont spécifiquement orientés vers des contenus scientifiques et culturels. Alors, l'autre résultat intéressant, c'est que quand ils souhaitent effectivement approfondir certaines questions qu'ils ont eues pendant leur visite, ils se disent qu'ils iront, bien sûr, après la visite, chercher de l'information, mais ça relève plutôt du vœu pieux. C'est-à-dire que oui, ça serait bien de le faire, mais bon, en fait, on va rentrer chez soi, puis on va penser autre chose, on va faire autre chose, et puis on va progressivement oublier et ne pas nécessairement avoir cette activité de recherche. Et une autre information qui est associée à celle-là aussi, enfin celle que je viens de vous dire, c'est que souvent, le média exposition est considéré comme un média qui est complet, qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que si les informations ne s'y trouvent pas, c'est qu'elles ne sont pas pertinentes. Voilà, les visiteurs ne considèrent pas nécessairement qu'ils pourraient trouver des informations suffisamment intéressantes ailleurs. Donc, ils peuvent ne même pas se poser la question de, voilà, s'il y a quelque chose qui leur échappe, de faire ce travail-là. Et s'il manque quelque chose, le reproche est fait à l'exposition elle-même, c'est-à-dire, ah oui, moi j'aurais aimé voir telle chose, j'aurais aimé retrouver telle information. Les concepteurs auraient pu mettre tel élément. Mais ça ne repose pas sur eux, sur leur démarche à eux de recherche d'informations. Alors, pour aller un peu plus loin, dans les activités qui suivent à cette visite, sur la question de recherche des informations, là, j'ai pu le chiffrer un peu plus. Donc, il y a 32% des visiteurs qui ont interrogé qui disent avoir approfondi leur visite en allant chercher des informations sur Internet. Des informations complémentaires, dont 20% sur Internet. Donc ça reste une proportion qui est assez basse hein, sur la proportion des visiteurs. Et comme c'est un questionnaire qui n'a pas été administré avec un enquêteur, on ne sait pas quel est l'effet de satisfaire l'enquêteur, hein, la réponse qui satisfera l'enquêteur. Mais on s'aperçoit surtout avec l'ensemble de ces résultats-là que cette ambition voilà, qu'on peut avoir à donner beaucoup de contenu sur Internet nécessite en fait de la part du visiteur de s'investir dans cette recherche d'information. Voilà, pour lui, ça devient vraiment un travail. Et donc on peut vraiment s'interroger sur ce travail qui est fait de mettre en ligne énormément d'informations de la part des musées, qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail, et souvent un travail coordonné entre les différentes équipes qui produisent les contenus pour les expositions, pour les outils de communication, de voir si effectivement on est utile aux pratiques des visiteurs. Ensuite, si on aborde la question de partout et tout le temps, là j'ai dégroupé parce qu'effectivement l'espace et le temps sont associés. Je vais raccrocher les choses à un processus de concrétisation de la visite et de familiarité muséale. C'est-à-dire que cette notion de avoir accès au musée, être en lien avec le musée, hors du musée, elle se construit d'abord sur un temps long, sur une durée, qui effectivement ne dépend pas que de la visite uniquement. Et c'est là où on voit que d'abord, dans l'avant-visite, on s'aperçoit qu'il y a une superposition des sources d'informations quant à l'activité du musée, au fait qu'il y a une nouvelle expo qui vient d'ouvrir, par exemple. Internet intervient. Mais au même titre que l'affichage, au même titre que la presse, ça devient voilà, une source comme une autre. Ensuite, on s'aperçoit que souvent, il y a une association entre l'information que l'exposition existe, qui passe par Internet notamment, avec une transmission des opinions. C'est-à-dire que cette exposition existe, je l'ai aimée, je ne l'ai pas aimée. Peu importe que ça soit positif ou négatif, mais souvent, cette association intervient dans le processus de décision de la visite. On s'aperçoit dans un second temps qu'il y a dans ce travail voilà, de lien, de rapprochement avec le musée partout et tout le temps, dans cette recherche-là, que les informations les plus recherchées sont finalement les informations pratiques. Alors je ne vous apprends rien, j'imagine que vous aussi, quand vous avez une pratique de visiteur, vous consultez, j'imagine, le site internet du musée. On s'aperçoit là, avec ce résultat de requête Google qu'on n'a même pas besoin d'aller sur la page du musée, que toutes les informations dont on a besoin, c'est-à-dire le tarif, l'horaire d'ouverture, le plan, l'adresse pour y aller, sont déjà affichées dans le résultat. Donc on n'a même plus besoin d'aller cliquer, les plupart des informations sont déjà livrées là. Alors, voilà, ça pose une question plutôt méthodologique sur laquelle je reviendrai. Ça veut dire que quand Google propose ces informations-là, ça veut dire que le site web du musée n'a plus accès à ses visiteurs potentiels. parce qu'ils restent au niveau de la page Google. Ils ne cliquent pas nécessairement sur le lien qui les amène sur le site, donc au musée finalement, dans ce musée en ligne. Alors j'en arrive à cette question de la familiarité muséale. Avec notre enquête, on s'est aperçu qu'il y avait une figure du visiteur, visiteur effectif, visiteur potentiel, c'est un peu difficile de le qualifier comme ça. Ce visiteur, il est au courant de l'activité du musée. Le musée fait un peu partie de sa vie, il sait qu'il existe, il sait qu'il fait partie de son territoire, de son mode de vie. Il n'y va pas nécessairement, mais il est au courant de ce qui se passe, et il est au courant de ce qui se passe justement grâce à son activité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que cet internaute, il se tient informé, grâce aux réseaux sociaux numériques, de l'activité du musée. Donc le musée dauphinois, fait partie de sa vie, mais on n'a pas nécessairement un déclenchement de la visite dans le temps, dans un temps assez court, en fait, qui est souvent suivi de la recherche sur les publics. Là, c'est une thèse, donc ça prend quelques années, mais souvent, c'est sur quelques mois. Donc, c'est souvent des visiteurs qu'on ne voit pas dans les salles, mais qui développent une forme de familiarité au musée parce qu'il a une existence sur ses réseaux sociaux et en ligne. Alors, j'en arrive à la question de par tous. Alors, là, dans les résultats, j'ai deux points que je souhaite aborder avec vous. C'est la question de la photo. Enfin, ça passe dans les deux cas par la photographie et par deux types de pratiques un petit peu différentes. Et c'est là où je vais en arriver à cette question des données et de la recommandation, vous allez voir à la suite. La première chose, c'est qu'effectivement, en termes de pratique numérique pendant la visite, c'est la photographie qui est une pratique dominante, d'après ce que j'ai pu observer. Plus que le téléphone, que l'envoi de SMS ou encore la recherche d'informations sur Internet. Ça va être cette pratique-là qui va être la plus forte. Ensuite, si on entre un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a d'abord une logique de l'élastique. Alors j'appelle ça comme ça parce qu'en fait on a une réappropriation de l'espace de l'exposition dans sa dimension de circulation grâce à cet appareil photo numérique qui peut être soit un téléphone portable, soit un appareil photo au sens propre. C'est-à-dire qu'il y a un visiteur qui va être intéressé par un objet de l'exposition, il va le prendre en photo, et puis il va profiter de son écran pour revisionner cet élément, en parler avec la personne qui l'accompagne, et poursuivre cette déambulation dans l'exposition, mais en continuant les interactions autour de l'objet qui a été photographié. Donc, c'est-à-dire que les interactions ne sont plus concentrées autour de cet objet de manière fixe par les visiteurs, mais grâce à la photo et à sa reproduction directe sur cet écran, ils vont pouvoir continuer leur visite, leurs interactions à partir de cet objet, mais dans cet esprit de déambulation. Ça, c'est une première pratique. La seconde, c'est celle du punctum de l'expérience de visite, comme je l'appelle, en photographie pour matérialiser cette expérience qui est propre du coup à chacun, à chaque individu, qui correspond à sa logique à lui. Et effectivement, il y a des visiteurs qui voient quelque chose dans l'exposition, qui les touche particulièrement, et le fait d'avoir ce téléphone, cet appareil photo dans la poche, permet de matérialiser cette émotion de manière assez rapide sur son appareil. Et là, on voit comment, avec cet outil technique, on peut finalement avoir des traces très concrètes de quelque chose qui est très fugace, qui est une émotion qui peut être assez forte et qui est assez importante en termes d'information quand on s'intéresse à ces publics. Et on voit aussi comment on arrive à s'approprier un objet de l'exposition qui, là, fait partie d'un espace public, à le rendre sien grâce à la reproduction qui opère sur la photographie, enfin, grâce à cet appareil. On se l'approprie, ça devient un objet intime, un objet à soi. D'autant plus intime qu'on y a investi une émotion forte. Donc il y a aussi cette dimension qui joue. Ensuite, il y a cette question d'appropriation matérielle de l'exposition où l'on emporte des morceaux avec soi. C'est-à-dire que là, on n'est pas nécessairement dans une dimension affective très forte. On serait plutôt dans un affect moyen, comme dirait Barthes, par rapport à la photo, où il y a quelque chose qui nous intéresse et dont on a envie de garder la trace de sa visite, la trace de cet élément, qui va être capté, soit par cette photo numérique, mais aussi par d'autres moyens. Ça peut être l'achat d'une carte postale à la fin de sa visite, comme l'achat d'un catalogue. Mais ça passe évidemment désormais aussi par ce moyen-là. ça relève soit de l'intention de se replonger plus tard dans sa visite, peut-être, ou alors de remploi de l'image, par de la retouche. On se dit « Ah, c'est joli, je vais pouvoir en faire quelque chose plus tard. » Alors, ce que ça m'amène à dire, cette situation, c'est que finalement, avec ces données informatiques qui sont inscrites comme la pratique photographique, qui relève vraiment de choses très intimes de la part du visiteur, ses émotions pendant la visite, ce qui relève aussi de sa prise d'information quand il programme, quand il souhaite programmer sa visite, ce sont des données qui sont enregistrées, effectivement, qui ne sont pas toujours enregistrées de manière consciente par lui. Et le chercheur peut travailler avec ces données pour en savoir plus sur son visiteur et effectivement lui proposer des contenus qui seraient adaptés à ses centres d'intérêt et à ses goûts. L'enjeu qu'on a aujourd'hui dans la recherche, c'est d'avoir accès à ces données. Et si on a accès à ces données, de savoir si effectivement on peut les utiliser. Quelle question éthique ça pose très concrètement de travailler avec ces données-là ? Pour le chercheur ou pour le professionnel de musée qui s'intéresse à ses visiteurs, il est vraiment essentiel de vraiment se dire de quelle façon on va utiliser ces données. Alors, pour poursuivre et pour conclure sur les premières questions que j'ai posées au début, c'est-à-dire quelle est la pertinence pour les musées de s'investir dans une certaine forme de numérique, que ce soit dans un travail sur les contenus, un travail de médiation, on s'aperçoit bien que ce qui est important, c'est que c'est un outil de diffusion de l'information événementielle du musée, de ses activités, de sa vie, au même titre qu'une campagne de presse, qu'une campagne d'affichage. Donc ça, c'est acquis, c'est pratiqué par les visiteurs. Par contre, pour les autres missions du musée, qui sont celles de la transmission et de la médiation, il est vraiment important de s'interroger sur le statut de ce média web quant à remplir ces missions fondamentales du musée, parce qu'on voit bien que les visiteurs se centrent essentiellement sur le moment de la visite, comme un moment où ils vont être tout à fait consacrés à ce travail-là. C'est-à-dire à la réception de l'exposition, où effectivement du coup peuvent se jouer des émotions assez fortes, mais où les contenus ne vont pas nécessairement venir de ce type de médias numériques. Donc voilà, je vous pose cette question maintenant de savoir si effectivement les musées continuent à proposer des contenus en masse et à travailler ces contenus pour qu'ils soient efficaces en ligne. Je vous remercie.